RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h18, l'Intégral Tour sur RMC, c'est jusqu'à 21h. Cyril Guimard est bien arrivé à Pau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Oui, effectivement, nous sommes bien arrivés à Pau. Ça a été un petit peu long là-bas de rallier.
800 km, c'est ça, c'est tout.
Bah oui, mais bon, ça a été dur d'abord de quitter la Bretagne et puis de quitter la côte de Cadoudal là-haut à Plumelec. En fait, ça fait quand même un long trajet de nuit, sortant que nous sommes très sollicités depuis le départ. Vous savez, les coureurs sont fatigués, mais nous aussi, on avait besoin de cette journée de repos.
Bien entendu, j'imagine. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser à Cyril Guimard. C'est le 3216 et puis c'est également sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Cyril, on va d'abord revenir sur la triste nouvelle du jour, hein, c'est-à-dire l'abandon d'Ivan Basso. Il souffre d'un cancer des testicules, il part se faire opérer d'urgence en Italie. On a appris ça tout à l'heure.
Oui, mais il se passe toujours quelque chose à Pau. Hein. Pau est une ville où le Tour de France a écrit une grande partie de son histoire, pas obligatoirement la plus belle d'ailleurs, puisque bon, il y a eu entre autres les affaires de dopage que vous connaissez, et puis là, cette nouvelle qui est tombée en fin de matinée de Ivan Basso, qui est donc reparti vers l'Italie pour passer de nouveaux examens, de façon à savoir exactement quelle est l'ampleur du problème qui le touche. Alors c'est toujours un moment difficile, parce que là nous sommes en dehors du domaine sportif, et quand ça touche un sportif, on est toujours un petit peu plus sensible. Mais espérons que tout cela, dans quelques mois, sera loin derrière lui.
Alors, on a Vincent qui nous appelle au 3216. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir, Virginie. Bonsoir, Cyril.
Vous avez 37 ans, Vincent, c'est-à-dire que vous avez le même âge que Ivan Basso.
Exactement.
Et vous est arrivé la même chose.
Exactement la même chose. C'est vrai que le raccourci des gens autour de nous, c'est normal. T'as fait du vélo, tu t'es dopé, donc t'as un cancer au testicule, parce qu'évidemment, Armstrong, Tour de France, dopage, cancer au testicule, et je voudrais pas que pendant le tour, puisqu'on sait très bien que pendant le tour, les affaires de dopage, c'est multiplié par 10 l'ampleur médiatique, qu'on vienne là-dessus, c'est quelque chose qui arrive dans ces âges-là. Chez nous, les cyclistes, on peut s'en rendre compte tard, parce qu'on pourrait dire comment ça se fait qu'ils s'en rendent compte maintenant. Mais Cyril pourra en parler, on a souvent des irritations avec des grosseurs qui poussent. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on pense que c'est dû au frottement de la selle. Et malheureusement, non, c'est ça. Hein. Après, ça se soigne très bien, il y a 99% de réussite. Et ce que j'aimerais pas, c'est que pour Ivan Basso, qui reste un grand coureur, oui, avec quelques histoires de dopage,
Qu'on fasse un raccourci,
parce que ça n'a rien à voir, c'est quand même, ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive à, voilà, c'est une tranche d'âge dans laquelle ça arrive, et on fait souvent le raccourci quand c'est le testicule, cycliste, dopage, dû à l'affaire Armstrong, et on se souvient de tout ça.
Cyril, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire pour l'instant, parce qu'on n'a pas de preuve de ça.
Non seulement il faut pas le faire, mais il est pratiquement impossible de démontrer quoi que ce soit en la matière. Mais je voudrais tout simplement vous parler d'un cas que j'ai bien connu, puisque j'avais 19 ans à l'époque, et j'avais un copain d'école qui a eu un cancer des testicules. Alors, je suis désolé, il n'y avait pas de PO, il n'y avait pas d'hormone de croissance, il n'y avait absolument aucun médicament. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas su le soigner, puisqu'il est décédé, donc à 19 ans de ce cancer. Il est jamais monté sur un vélo, même pour aller à l'école, il habitait trop près de l'école. Donc, faire des raccourcis, pour moi, c'est quelque chose d'intellectuellement malhonnête.
D'accord. Merci beaucoup Vincent d'avoir appelé le 3216. Merci Cyril. On peut dire aussi quand même là, c'est qu'Alberto Contador perd un de ses coéquipiers. Est-ce que ça peut changer quelque chose d'ici la fin du Tour de France ?
Je ne pense pas que ça puisse changer énormément de choses, parce que Ivan Basso sort d'un Tour d'Italie, mais depuis quelque temps, il est quand même dans la haute montagne, de peu d'efficacité. Son rôle était surtout celui de régulateur de l'équipe, mais je pense que Contador a suffisamment d'expérience, de métier. Il a quelques coureurs également très expérimentés autour de lui. Et l'absence de Basso comme régulateur, je le répète, je pense n'aura pas d'incidence.
Alors quand on regarde les grands favoris de ce Tour de France, que sont Alberto Contador, on vient d'en parler, Chris Froome qui a le maillot jaune sur les épaules, Nairo Quintana qui fait aussi partie des favoris, et puis Vincenzo Nibali, celui qui a gagné l'année dernière. Le mieux armé là, alors qu'on s'apprête à entrer en montagne, et lequel parmi ces quatre coureurs?
Question facile, Virginie. Très facile. Et on n'est pas dans les paris.
Non, mais je suis obligée de la poser.
Parce que dans le sport et dans le cyclisme en particulier, on écrit les scénarios après. Donc, tout ce que l'on peut évoquer avant, c'est de la théorie, c'est du virtuel.
Mais il y a quand même une forme qu'on a vue. Par exemple, si je dis que Nibali n'a pas l'air au mieux, lui, par rapport
alors,
à...
Alors, il y a des tendances, oui, c'est vrai. Nibali, personnellement, je considère que Nibali, non pas par le fait qu'il soit à 2 minutes 22, parce qu'il pourrait y être pour d'autres raisons, mais parce qu'à aucun moment, en dehors des pavés, il n'a démontré sa capacité à faire la différence. Il a toujours été un petit peu en retard, il a subi, y compris, et ça rappelez-vous, dans la montée de Mur de Bretagne, où il a quand même perdu sur les autres favoris, 10 secondes en l'espace de 800 mètres. 30 coureurs l'ont devancé au sommet de Mur de Bretagne. Et ça, c'est un indicateur qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Dans le contre-la-montre par équipe, il a été efficace, mais pas décisif. Donc, 2-22, compte tenu de ce comportement, ce que je peux ressentir, je pense que Nibali n'est plus dans le coup pour gagner le Tour. Il pourra peut-être venir sur le podium, mais non. Je crois que ceux qui sont le mieux armés, parce que en fait, ils ont deux cartouches. Ce sont les Movistar avec Valverde qui est à 1,50 et Quintana qui est à 1,59. Et il y a un coureur de grande expérience qui est Valverde, plus ou moins au service d'un coureur qui est sûrement celui qui a le plus de potentiel en haute montagne, Quintana. Ils sont à 1,50, 1,59 de Froome. Ils ont donc des capacités, des possibilités sur le plan stratégique de prendre un petit peu entre tenailles Froome, qui reste quand même le grand favori. Contador ne me semble pas avoir la giclette pour pouvoir faire mal à Contador. Donc reste après Van Garderen, qui est la grande inconnue.
Juste un petit mot sur le 14 juillet. Demain, c'est le 14 juillet. On sait que tous les ans, les Français essaient de se montrer à cette date-là. C'est normal. Là, c'est une première étape de montagne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même quelques Français qui sont capables de la gagner, celle-là?
Oui, bien sûr, mais les Français arrivent à gagner le 14 juillet.
Oui.
Mais beaucoup moins souvent qu'ils ne perdent le 14 juillet.
Mais oui, bien sûr.
Bien sûr.
On retient souvent le 14 juillet où ils gagnent, c'est vrai.
Montgoutière, Aymon de Lille, etc. Ouais. Mais souvent aussi parce que c'est des étapes qui conviennent aux Français.
Non, mais je me dis, quelqu'un comme Thibaut Pinot, qui a raté sa première partie de Tour de France, peut éventuellement s'échapper, et on va peut-être là le laisser s'échapper, puisque de toute façon, on se dit maintenant, bon, il gagne. Pas le général.
Oui, alors c'est plus difficile dans l'étape de demain. Vous avez 150, un tout petit peu plus de 150 kilomètres, on va dire de plat. Et puis ensuite, vous avez l'ascension de la Pierre Saint-Martin, 15 kilomètres, ascension brute. Il faudrait que Thibaut Pinot parte dans un coup à plus de 120, 130 kilomètres de l'arrivée. Et encore, faudrait-il qu'on laisse développer cette échappée pour qu'elle arrive avec suffisamment d'avance au pied de la Pierre Saint-Martin, pour que l'un des coureurs échappés, alors donc éventuellement avec Thibaut Pinot, ça peut être vrai avec pour Roland ou Villarmoz également, suffisamment d'avance pour conserver un petit chouïa, un petit quelque chose au sommet. Donc j'ai du mal à croire que demain, compte tenu de l'importance de cette première ascension, une échappée puisse arriver avec suffisamment d'avance au pied de la Pierre Saint-Martin pour que l'un d'entre eux, de ces échappés, puisse l'emporter.
Oui, ça va faire beaucoup de si. Merci beaucoup,
Cyril. Oui, il y a beaucoup de si, oui.
On va te retrouver dès 19h en compagnie de Fred Adam. Nous, on se dit à demain, à la Pierre Saint-Martin, à l'arrivée de cette 10e étape. On va rester à Pau, direz-vous, puisqu'on va rejoindre Tony Estanguet dans un instant. Demain est un grand jour pour la candidature de Paris au JO de 2024.